territoire possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Là, en tant que syndicaliste, la première chose à faire demain, en retournant au boulot, c'est de se syndiquer, de militer et essayer de se laisser des espaces de réflexion et de pouvoir établir des revendications. Et puis plus on sera nombreux, moins ils pourront nous faire plier sous la répression.
Se rassembler, se syndiquer, être ensemble, bah, c'est légal, c'est légitime et c'est juste. En fait, c'est ça qu'il faut faire.
Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Citoyennes et citoyens forment l'immense majorité du pays face à une poignée d'ultra-riches terrorisés qui, pour conserver leurs privilèges, instrumentalisent une police payée par les impôts de tous. Salut les amis, c'est JBD pour Polémiques et la voix off.com. Bienvenue à vous pour cette émission autour du 1er mai, fête des travailleuses et des travailleurs, avec aujourd'hui un retour sur une table ronde sur la répression policière et judiciaire des collectifs écologistes et des syndicats de lutte. Événement organisé par Bassine Non Merci, c'était le 3 décembre 2025, à l'occasion de la convocation au tribunal de Poitiers de deux militants syndicaux de la CGT et de Solidaires, et de deux militants des collectifs Bassine Non Merci et des Soulèvements de la Terre, procès dans le cadre de la lutte anti-mégabassine dont on vous a déjà beaucoup parlé dans ces reportages, à réécouter donc sur polémiquesetlavoixoff.com. Alors désolé par avance pour la piètre qualité sonore de cette restitution de table ronde enregistrée depuis le public, mais ce qui s'est dit ce jour-là est extrêmement important et mérite que vous tendiez un peu l'oreille pendant une heure. Vous savez que le moment est grave, la bourgeoisie est aux abois et recourt de plus en plus à la répression policière pour se maintenir au pouvoir. Et comme elle l'a déjà fait dans les années 30, l'oligarchie n'hésite plus à recourir à la solution fasciste, comme en attestent les scores du Front National qui ne rassemblent rien d'autre que frustration, peurs et colère. Pour parler de la répression contre syndicats de lutte et collectifs écolos, Bassine Non Merci a composé ce plateau avec Myriam Lebkiri, secrétaire confédérale CGT, Julia Ferrua, secrétaire confédérale solidaire, Nicolas Fortin, de la Confédération Paysanne, Benjamin et Maxime, deux comédiens de la compagnie Arlette Moreau, et c'est Adeline de Bassine Non Merci qui anime le débat.
Ma première question, ça va être de demander à chaque intervenant de présenter sa structure. Pourquoi sa structure, son syndicat, sa compagnie, elle dérange l'État ?
Myriam, secrétaire confédérale CGT.
Pourquoi on est réprimé par l'État ? Parce qu'on est un contre-pouvoir. Ça fait 130 ans que la CGT elle existe cette année. Ça fait 130 ans. C'est un contre-pouvoir aussi bien politique qu'un contre-pouvoir dans les entreprises et dans les administrations, puisqu'on structure et on organise les salariés. À cet effet, nous faisons peur au gouvernement, nous faisons peur au patronat, puisque nous sommes le porte-voix du monde du travail et dans cette lutte des classes infernales, nous sommes un des contre-pouvoirs avec d'autres organisations syndicales et milieux associatifs qui permettent de se saisir et de réfléchir à d'autres projets de société.
Julia, secrétaire confédérale solidaire.
Solidaire, bah, du coup, pareil, hein, nous on est un syndicat de travailleurs et de travailleuses, et d'étudiantes et de retraités. Pourquoi est-ce qu'on dérange ? Bah, parce qu'effectivement, hein, comme la CGT, on est un contre-pouvoir. On est aussi un syndicat de transformation sociale, parce que nous, ce qu'on aimerait rappeler à Solidaire, c'est que les luttes sociales et les luttes écologiques, aujourd'hui, elles doivent être liées. On le rappelle aussi, hein, il ne peut pas y avoir d'emploi sur une planète morte. Partout où il y a des luttes écologiques, vous allez trouver des syndicalistes qui vont lutter à côté de toutes ces luttes. On dérange aussi parce qu'on le dit clairement, on est un syndicat anticapitaliste, on combat les lobbies financiers, les multinationales. Ça aussi, ça dérange le gouvernement en place. On est un syndicat qui défend le droit du travail aussi avant tout. Et ça dérange aussi le patronat de défendre les travailleurs et les travailleuses.
Nicolas, Confédération Paysanne.
La Confédération Paysanne, donc c'est d'abord avant tout un syndicat de défense des paysans et de ses travailleurs. Donc nous, on est des petits patrons. La Confédération Paysanne, elle dérange dans le milieu agricole parce que, certes, on est un syndicat dit minoritaire, on représente 20% des paysans quand même en France. Elle dérange parce qu'elle se bat, je dirais, sur un projet d'agriculture assez global par rapport à l'État, on est toujours un peu bancal, parce qu'à la fois on essaie de jouer notre rôle institutionnel de syndicat, de relation avec le gouvernement, mais actuellement c'est très très compliqué. Et puis on essaye souvent d'être là où on ne nous attend pas, dans des actions de désobéissance, voilà, ce qui est un peu la marque de la Cour depuis longtemps. Voilà, on n'hésite pas à démonter des pompes pour démontrer que des bassines, ça ne se remplit pas avec de l'eau de pluie.
Un comédien de la compagnie Arlette Moreau.
La compagnie Arlette Moreau, on est une compagnie de spectacle et de performance de rue depuis une dizaine d'années basée à Poitiers. Pourquoi on dérange le gouvernement? En fait, nous, on se pose la question un peu autrement, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement nous empêche de faire notre travail? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller dans la rue, faire des trucs, ou faire exposer notre sensibilité, montrer des débats qui méritent d'être existés? Et donc, on imagine que c'est parce qu'on fait exister un contre-pouvoir et que les endroits qui sont libres de s'exprimer sont de plus en plus réduits. Donc c'est probablement pour ça qu'on dérange le gouvernement, entre autres.
On a parlé beaucoup de violences policières ces derniers temps, et justement avec tous les rapports et l'enquête de Mediapart et Libération, et les scandales. Mais on voit qu'il y a aussi une autre répression, beaucoup plus pernicieuse, qui passe par différentes techniques, différents moyens, justement pour empêcher les syndicats, les collectifs, les associations, les militants, justement d'agir. On l'a vu aujourd'hui, l'arrêté, il avait double fonction, nous interdire la manifestation et vous faire peur à vous, pour que vous pensiez que comme c'est interdit, il va y avoir de la violence, donc il était mieux de ne pas venir. Alors ça n'a pas marché parce que justement la com a été plus forte, que l'arrêté a été suspendu et que vous êtes tous là. Mais c'est plein de petits moyens comme ça qu'on voit que l'État met en place pour aller sur la répression. Et je vais commencer par les camarades Benjamin et Maxime pour nous parler, vous en tant que compagnie, justement, quelle est la répression que l'État met en place? Quels sont les actes qu'ils font pour vous empêcher justement d'avoir une liberté de parole et d'action?
Alors nous, la compagnie, on a fait une demande de subvention pour faire une tournée d'un spectacle. Et en fait, on a eu un refus de subvention avec un motif qui était qu'on avait des activités contraires au contrat d'engagement républicain. Et donc, petite explication du contrat d'engagement républicain pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce bijou. Ce CER, il est entré en vigueur avec la loi séparatisme, qui a aussi un autre nom, la loi confortant le respect des principes de la République, en 2021. C'est dans cette même loi qu'est arrivé aussi le principe de pouvoir dissoudre les associations, enfin plus facilement, dissoudre les structures et les associations. Et en fait, ce CER, c'est toutes les structures associatives, si elles veulent de l'argent public ou même un lieu, un espace mis à disposition, du matériel, elles doivent signer ce contrat. C'est une case à cocher, concrètement, quand on dépose un dossier de subvention. Et ça veut dire qu'on respecte ça, et c'est-à-dire qu'il y a 7 points. C'est des choses qui ne servent à rien, parce que c'est déjà dans la loi, de toute façon. Et soi-disant, ce contrat serait là pour empêcher qu'une structure fasse du mal à l'État, au peuple, en ayant des subventions publiques. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire jusque-là, les administrations, enfin les préfectures souvent, ou les municipalités, des choses comme ça, c'est de dire... Non, cette association ne respecte pas le CER, donc pour ce motif-là, sans devoir se justifier plus, on lui supprime sa subvention, sa salle, son accès à une manifestation, des choses comme ça. Et à chaque fois, c'est parti en justice quand même, ça prouve que leur outil, il n'est pas super efficace dans ce sens-là. Après, l'idée quand même d'empêcher les associations est toujours là, de couper les moyens ou de faire des choses comme ça, c'est toujours là. Mais ce CER, c'est un outil qui sert à ça, quoi. Concrètement, c'est comment faire pour couper les moyens d'une subvention. C'est pas la supprimer comme une dissolution, mais c'est dès qu'on coupe les moyens d'une assoce, ça va être plus dur de faire son activité, quoi, dans l'association. Voilà.
Côté syndicat, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples d'entraves?
Alors, côté syndicat, le contrat d'engagement républicain, normalement, on n'y est pas soumis, mais on s'aperçoit que là où il y a des mairies d'extrême droite, ils essaient de faire signer ce fameux contrat d'engagement républicain. Donc c'est des cas qu'on a eus, donc on a attaqué au tribunal et à chaque fois on a gagné. L'une des grosses tactiques aussi du gouvernement, ce sont les attaques au tribunal qui se multiplient. C'est pas très clair, on sait pas trop pourquoi on est convoqué, et en fait souvent, en fait ils perdent, mais en tout cas nous ça nous fait perdre beaucoup de temps. Ça nous fait perdre du temps, des moyens, ça nous fait perdre du temps sur la lutte. C'est aussi des amendes qu'on voit se multiplier, pour du collage d'affiches, avec des amendes. Alors bon, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, je crois que c'était à Marseille, ils avaient 50 000 euros d'amende de collage d'affiches pour avoir collé 10 affiches. Ça faisait le collage de l'affiche hors de prix, quoi. Limite, alors ils méritaient sa place dans un musée. Il y a aussi ce qu'on voit aussi se multiplier, hein, c'est des interpellations de militants à leur domicile plutôt que des convocations à la gendarmerie. Ça, c'est aussi ce qu'on peut voir se multiplier. Et à domicile, devant la famille, à 7h du mat, voilà, alors qu'une simple convocation aurait suffi. Voilà, et puis aussi ce qu'on a pu voir dans les luttes, notamment écologiques, c'est des balises GPS mises sur des voitures et des enregistrements de téléphones portables, donc sur écoute téléphonique. Donc ça aussi, ça se voit, ça se multiplie un peu partout dans les luttes, notamment écologiques. Voilà.
Quand on est syndicaliste et quand on est militant ou militante, on peut être attaqué par des plaintes et au niveau de la justice, comme c'est le cas par exemple de David Baudin pour la CGT aujourd'hui. On a un des secrétaires d'Union départementale des départements pour la CGT, qui est Laurent Intrusiak, qui a été convoqué plus de 29 fois auprès des forces de police. On a énormément de répression, on a des secrétaires d'UD qui se font arrêter. Là, moi je viens du département du 95. Un camarade, le camarade Kamel Brahmi, qui est secrétaire du D du 93, il a été arrêté directement par la police parce qu'il était dans une mobilisation avec les profs pour avoir des ouvertures de classe, etc. Et ben, la police est allée à la touche avec lui et l'a arrêté dans la foulée. Il a été mis en garde à vue, etc. Donc on est attaqué à l'extérieur quand on est militant et militante, mais aussi on a attaqué à l'intérieur en tant que salarié, en tant que travailleuse et travailleur. Donc on a de plus en plus de militants et militantes qui ont des sanctions professionnelles, que ça peut aller jusqu'au licenciement. On en a eu énormément dans le mouvement de 2023, notamment les énergéticiens qui ont fait des opérations au Robin des Bois ou de coupure de courant, qui ont été ensuite vraiment discriminés et réprimés en entreprise. Et puis il y a un autre levier gouvernemental, c'est celui de nous couper les vivres du fonctionnement. Par exemple, les maisons du peuple sont de plus en plus attaquées, les bourses du travail sont de plus en plus attaquées. On a des remontées de fermetures tous les ans, voire plusieurs fois par an. Et c'est vrai que d'ailleurs, des fois, c'est la menace de signer le contrat républicain pour la mise à disposition des locaux. Ils ont toujours des idées nouvelles pour nous attaquer et pour nous empêcher de nous exprimer. Avec, là, ce que tu disais sur les amendes, ça me fait penser que nous, la dernière fois, on s'est pris une amende de stationnement. Parce qu'on avait stationné le Kangoo de manif là où il devait être, hein, mais on s'est pris des amendes de stationnement, des trucs comme ça. Ils essayent par tous les moyens de brider notre parole et notre fonctionnement.
À Albi, se sont pris une amende lors d'une manifestation pour avoir grillé un feu rouge.
Oui.
Nous, à la Comp, je trouve, on a l'impression que la répression, on la vit à deux niveaux. Donc là, actuellement, avec le gouvernement qu'on a, en fait, la ministre, elle suit la feuille de route de la FNSEA. Donc nous, on essaie de faire le travail institutionnel, mais on a vraiment le sentiment d'être méprisé et pas écouté. Donc c'est vrai que ce n'est pas une répression. Enfin, c'est quand même assez dur à vivre. L'exemple de là, le Duplon, par exemple, est quand même très révélatrice. Hein, voilà, donc c'est un projet de la FNSEA, porté par quelqu'un de la FNSEA, et le gouvernement prend pour lui cette loi. Et on voit bien que cette loi, elle répond en rien aux attentes de la société, quand on a pu voir la pétition qui a pu en suivre. Il n'empêche qu'elle va s'appliquer en bonne part, hein, elle s'applique sur les questions d'eau aujourd'hui, et ça c'est quand même assez grave. Et après la répression, on le vit forcément dans toutes les actions qu'on porte, hein. Donc on passe au tribunal aussi, bien souvent malheureusement, et ça c'est quand même assez compliqué. Par exemple sur Sainte-Soline, c'était pas longtemps avant la grosse manif de Sainte-Soline, la FNSEA avait mis 600 tracteurs dans les rues de Paris, apparemment ça posait problème à personne. Et nous, on emmenait 50 tracteurs à Sainte-Soline et on a eu interdiction de circuler avec nos tracteurs. Il y a un niveau de répression qui n'est pas du tout le même. Pour finir, je peux dire, on a un exemple dans la Vienne. Pendant les colères agricoles, on s'est mobilisé sur une action plutôt symbolique de crédit gratuit dans un supermarché. On n'a pas vraiment fait des grosses dégradations. Même le gérant du supermarché a dit qu'il n'y aurait pas de souci. Et là, on se retrouve avec un paysan qui est convoqué en gendarmerie mercredi prochain pour incitation au vol. Donc là encore, on a vraiment le sentiment qu'on n'a pas du tout le même niveau de répression qu'il peut y avoir sur les autres organisations syndicales. On a pu voir à Poitiers, par exemple, les motards qui accompagnaient les tracteurs pour aller baigner des remorques des déchets devant la permanence de la députée de Poitiers. Enfin, franchement, là, on a vraiment le sentiment qu'on n'est pas traité au même niveau, en tout cas.
Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de toutes les répressions qu'ils font en individuel sur les personnes qui séparent la mobilisation, le syndicat, mais qui ciblent des personnes directement du syndicat? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner?
Nous, là, on a un cas, on a un camarade qui s'appelle Djelloul. militant à Sud Collectivité Territoriale dans le 62 à Hénin-Beaumont. Ce que veut le maire, donc Hénin-Beaumont, maire d'extrême droite, c'est le radier de la fonction publique pour être sorti de son devoir de réserve en tant que fonctionnaire, parce qu'il a osé dire dans un documentaire que le maire de Hénin-Beaumont était raciste. Alors il ne l'attaque pas pour diffamation, mais il l'attaque pour être sorti de son devoir de neutralité. On a d'autres camarades sur Amazon, notamment dans le Nord, aussi très attaqués. Il faut savoir que le droit de travail à Amazon est très compliqué et les camarades de Sud Commerce Amazon, ça a été l'un des premiers syndicats à devenir un peu massif au sein de Amazon. Du coup, on a deux camarades qui aujourd'hui subissent vachement de répression et risquent d'être licenciés. Donc là, pareil, hein, on les soutient. Donc ça, c'est des cas un peu individuels. Et puis, il y avait aussi les cas des cadres de MEL dans l'éducation qui, lors des mobilisations contre la réforme du bac, avaient osé critiquer le ministre et ce qui se passait à ce niveau-là, au niveau de la réforme du bac. Et ont subi des mutations forcées.
Myriam, de la CGT.
Déjà, on a cinq dirigeants et dirigeantes du bureau confédéral qui ont été inquiétés, et c'est sur des valeurs fondamentales fortes. Par exemple, Gérard Rey, qui s'occupe notamment des travailleurs migrants, il y a une plainte contre lui parce qu'il a dit qu'il y avait un problème, il est plainte en diffamation pour l'entreprise Sépure. Il y a Sébastien Ménesplier de la Fédération de l'énergie qui a été inquiété pour les coupures de courant qui ont été mises en place dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. On a eu hier Jean-Paul Delescaut, qui est de l'UD du Nord, mis en examen et qui a été condamné à de la prison avec sursis pour apologie du terrorisme, hein, parce qu'ils avaient appelé à la mobilisation et écrit un tract, hein, il y a 2 ans, en soutien à la Palestine. Donc ça, c'est extrêmement grave. On a eu beaucoup de camarades et notamment des territoriaux qui ont été inquiétés suite à la campagne pour le programme du Nouveau Front Populaire. Lorsque la CGT et d'autres organisations, lorsqu'on s'est positionné pour faire barrage contre l'extrême droite, on a des militants, militantes, des mairies notamment, qui nous ont alertés. Est-ce qu'on peut distribuer des tracts? Est-ce qu'on peut? Donc nous, on a dit contre l'extrême droite, on n'a jamais les genoux qui tremblent, donc on va jusqu'au bout. Et ils l'ont fait avec beaucoup de courage, puisque pour certains et certaines, ils ont eu des sanctions pouvant aller jusqu'à plusieurs jours de mise à pied. En fait, on est attaqué dans nos valeurs quand ils nous répriment. Et puis là, on a appris très très récemment, c'est peut-être l'apothéose de la répression quand même, c'est le top niveau, que Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, est également mise en examen pour des propos qu'elle a tenus il y a quelques mois concernant le chantage à l'évasion et à la délocalisation que font les multinationales lorsqu'il s'agit de leur faire payer leur juste part d'impôt. Et elle a dit très justement sur RTL que c'est les rats qui quittent le navire. Donc elle est mise en examen pour ses propos et la radio est également poursuivie. Ce qui fait que ça entrave aussi. Par exemple, moi j'ai dans mon département une camarade pareil qui on essaie de voir pour quel est le statut de lanceuse d'alerte notamment. C'est aussi le journal L'Humanité qui a relayé sa parole qui est aussi poursuivie. Donc c'est une technique pour que maintenant les radios, les journaux aient peur aussi de nous laisser la parole et de qu'on soit porte-voix du monde du travail. Grosso modo, on est attaqué de toutes parts sur toutes les valeurs qu'on porte.
Donc là, on a vu qu'il y a plusieurs formes de répression, on en a parlé, donc il y a toute la question des arrêtés en amont. Il y a la question des financements. Les financements, en fait, c'est le nerf de la guerre, parce que même si beaucoup d'associations sont anticapitalistes, en réalité, sans l'argent, elles ne peuvent pas financer des salaires à des conditions correctes. Petit plaidoyer aussi, comme on a des syndicats, c'est pas parce qu'on est militant qu'on va avoir des conditions exécrables de travail. Et sans financement, eh ben, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, on a fait une petite analyse dans un des syndicats de Solidaires d'Assaut, qui est le syndicat des travailleurs associatifs. On a plus de 30% des associations qui sont touchées par la baisse de financement et qui vont mettre en place des plans sociaux. Et donc ça, c'est aussi une manière de réprimer, s'assurer que les associations militantes, elles puissent plus ouvrir. S'il n'y a plus personne et qu'il n'y a plus le financement pour financer, accueillir les bénévoles, il ne se passe rien. Et puis on l'a vu, là vous l'avez très bien décrit, c'est la politique de l'État de diviser. Comment? En divisant, en individualisant. Vous voyez bien, bah, sinon merci, à Sainte-Soline, on était plusieurs milliers. Et pourtant, là aujourd'hui, il n'y a que 4 camarades qui sont devant le tribunal.
en individualisant, en prenant des personnes seules et en les mettant face à la justice, parce qu'en effet, quand on a une condamnation, on est tout seul à l'avoir. Et bien ça, ça fait peur. Et ça, ça permet aussi de faire toute une campagne de communication qui fait peur aux gens et qui s'engage moins. Et c'est là où le collectif est vraiment important et qu'il faut remettre du collectif. Et ma question, ça va être justement comment, à travers la compagnie, à travers les syndicats, vous arrivez à déjouer ce côté d'individualiser et d'emmener au tribunal des personnes. Qu'est-ce que vous mettez en place ?
Maxime et Benjamin de la compagnie Arlette Moreau.
Nous, on a de la chance et à la fois pas de chance, dans le sens où jusqu'à maintenant, l'ensemble des manifestations et des représentations qu'on a faites dans l'espace public, elles n'ont été que arrêtées par la police. Et on nous a simplement relevé nos identités. Qu'est-ce qui va faire qu'on y va ou on décide de ne pas y aller individuellement, c'est effectivement la peur que peut faire exister le fait de se retrouver en garde à vue ou convoqué devant le tribunal, ce genre de choses. Et ça fait partie, nous, des questions qu'on se pose à chaque fois qu'on va aller dans l'espace public. Comment est-ce qu'on se prépare à ça? Et donc on s'est formé à notamment à des outils de désobéissance civile sur comment faire pour réagir lorsqu'il y a des représentants de l'ordre. Ça peut être des représentants de l'ordre tels que la police, mais ça peut aussi être des représentants de l'ordre à partir du moment où on est dans des espaces privés, donc des centres commerciaux, ce genre de choses. On a fabriqué un protocole avec l'ensemble des intervenants savent comment réagir dans certaines circonstances, et on a ce qu'on appelle des contacts autorités. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas dans la performance artistique et qui sont simplement là pour regarder autour, savoir si il y a une intervention potentielle qui va apparaître et se présenter à la fois en garde-fou, mais aussi en rétention, pour faire que la performance continue d'exister, que ceux qui jouent continuent de jouer et continuent de pouvoir faire ce qu'ils savent faire. Et donc, du coup, il y ait une forme de retenue, et ça permet aussi d'éviter qu'on se retrouve individuellement en garde à vue, puisque lorsque le débat n'existe plus, le contact autorité dit que la forme artistique s'arrête, et donc tout s'arrête. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, on ne peut pas être poursuivi. Ça fait partie des outils pour lesquels on a été formés.
Plus notre recours face à la préfecture, parce qu'on était tout seul à ce moment-là quand on a eu le motif, là, comme quoi on avait des activités contraires à la République. Et du coup, on a choisi d'aller en justice, mais pas tout seul, parce que nous, on est une compagnie de spectacle. Et en fait, on s'est tourné tout d'abord vers un syndicat, le SINAVI, qui nous a pas mal aidés. Et en fait, c'est ça, on a fait collectif, quoi. On est allé de rencontre en rencontre. On a eu des contacts avec Alternative à Poitiers, qui avait l'affaire, pareil, avec le CER, qui nous ont filé des contacts d'avocates. Et en fait, ça, on a rencontré tout un réseau, justement. Et là-dedans, il y a l'Observatoire des libertés associatives, qui nous a vachement aidés et qui fait un gros boulot de recensement d'entraves aux libertés associatives, et puis aussi de mise en réseau, et puis de table ronde, des choses comme ça. Et en fait, ça fait qu'aujourd'hui, notre cas, déjà, il sert. Le coup de projecteur sur l'entrave et la mise en réseau, elle est bien effective, quoi. La semaine dernière, j'étais avec la Fédé des Arts de la Rue, ça les intéresse, et puis d'en parler, en fait, ça fait réseau. On recrée un groupe, quoi, là où ils veulent vraiment nous atomiser, et c'est vraiment par des attaques, par Thibaut. Aujourd'hui, je me retrouve avec d'autres gens, d'autres compagnies, d'autres associations qui sont embêtés par quelque chose où ils se disent « Oh, mais je sais pas si c'est une entrave, je sais pas trop, mais en tout cas, je l'ai mal vécu ». Et du coup, avec notre expérience, on raconte, et puis « Ah, mais t'as raison, donc je pourrais... » Et voilà, on recrée du lien, on recrée du réseau assez directement, quoi.
Myriam, de la CGT.
Déjà, ce qu'on a fait, qu'on redistribue le plus souvent en manifestation, c'est un guide du manifestant, de la manifestante. Comme ça, on sait comment se comporter en manifestation, comment se protéger aussi des forces de l'ordre. On a, étant donné la massification des répressions qu'on a constatées, on a mis en place un dispositif d'urgence pour des réponses immédiates lorsqu'il y a des convocations, des gardes à vue, etc. On se fait aider par des avocats, de la même manière, plutôt des avocats militants, par le syndicat des avocats aussi, avec qui on réfléchit à proposer des choses sur les libertés syndicales. Et puis, le plus possible, on ne fait aucune action seule. Enfin, on fait toujours des actions qui ont été décidées collectivement. Et pour avoir moi aussi été inquiétée et avoir été convoquée à la gendarmerie, à titre personnel, je ne me suis jamais sentie attaquée individuellement. Pour autant, c'est à 21h le soir. D'ailleurs, on était en réunion, tu te souviens, Julie ? On était en réunion féministe. En visio, et puis voilà, ça sonne en bas de chez moi. Mon fils de 10 ans ouvre, puis il me dit « Maman, il y a les gendarmes ». Tout de suite, il y a eu un mouvement syndical extrêmement important.
parce que je sais que c'était la CGT par ma personne qui était inquiétée. Et à chaque fois, on arrive à prendre cette hauteur et il y a toujours le collectif, la camaraderie, le mot camarade, il représente quelque chose dans le syndicalisme et jamais on laisse seul des camarades et jamais on se sent seul dans ce genre de poursuite.
Julia de Solidaire.
Comme la CGT, nous aussi on a un guide du manifestant et de la manifestante qui est disponible sur notre site et qu'on réédite régulièrement parce que je crois que ça fait partie des guides qui sont le plus pris. On a aussi une liste d'avocats et d'avocates militantes à disposition. Depuis septembre, on a mis aussi en place, lors de mobilisations, d'actions, un numéro anti-répression. On pensait que ça allait, qu'il allait y avoir beaucoup de répression le 10 septembre, et c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on mette un numéro au niveau national voilà, pour aiguiller les camarades qui peuvent se faire interpeller. Bien sûr, quand il y a des interpellations, ben, comme la CGT, nous, on collectivise. Ce n'est pas la personne qui est attaquée à titre individuel. C'est le syndicat qui est attaqué. Donc, c'est le syndicat qui sera derrière dans son ensemble. Et on essaie de médiatiser aussi l'affaire au maximum. Ce qu'on essaie aussi de faire, c'est lors de formations. Alors, on a des formations sur le SO. Donc, le SO, c'est plutôt le service de sécurité pour nous qui protège les manifestants et les manifestants en manif. Mais on s'entraîne aussi à faire des manifestations, des fausses manifestations, comme ce qui a pu se faire au village de l'eau à Mel il y a 2 ans maintenant. Ce qu'on est aussi en train d'anticiper là, on essaie d'anticiper si jamais un jour l'extrême droite arrive au pouvoir, ce qui est aussi possible. Donc voilà, donc là on a des grosses réflexions en interne sur comment est-ce qu'on sécurise nos données, nos locaux, comment on sécurise aussi financièrement. Mais voilà, il faut absolument se protéger, pas avancer seul, collectiviser, médiatiser au maximum, voilà, et puis ne pas renoncer à lutter. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent, et nous, on sera là toujours, le caillou dans la chaussure du gouvernement.
Donc nous, à la Confédération Paysanne, on n'est pas très très bon encore sur ce domaine de se protéger. C'est des choses qu'on essaie de travailler, mais c'est vrai que c'est pas vraiment dans notre culture, puisque enfin, de longue date, on a porté des actions de désobéissance ou même on a essayé de profiter justement de la répression et du fait qu'il y ait des procès pour médiatiser des choses. Plus emblématique, c'est certainement José Bové, qui est quand même quelqu'un qui s'est fait connaître parce qu'il est rentré en prison suite à une simple action sur un McDonald's pour dénoncer à l'époque les accords de libre-échange sur lesquels on est encore. Voilà, il y a eu ça, il y a eu tous les procès des faucheurs d'OGM. Tout ça, c'était des actions aussi qui étaient revendiquées. Collectivement, on a encore décidé que toutes les actions, on continuerait à les faire à visage découvert, même si on se pose la question s'il faut vraiment continuer là-dedans, puisque c'est vrai qu'on a eu aussi des procès qu'on a perdus, etc. Donc peut-être aussi que cette fait de retourner un peu la répression qui est faite contre nous pour s'en servir d'armes de communication, ça peut être aussi quelquefois des atouts, mais c'est vrai qu'à titre individuel, pour les personnes qui sont mises en cause, c'est quand même très très compliqué de supporter. Donc c'est vrai qu'il faut faire gaffe, et puis il y a aussi quand même les risques de procès qui peuvent être aussi très coûteux. Il y a la répression d'État, mais il y a aussi la répression d'autres organisations agricoles qu'on a pu subir, notamment par rapport aux bassines, puisqu'il y a quand même une pression forte qui a été mise sur les paysans qui ont participé aux mobilisations, aux paysans qui ont prêté des parcelles, par exemple, pour les rassemblements. Voilà, il y a des choses assez virulentes. Il y a aussi des pressions qui ont été mises sur l'organisation syndicale à travers des subventions supprimées. Voilà, des menaces carrément de mort ou d'incendier les fermes de porte-parole des Deux-Sèvres, par exemple. Enfin, c'est des choses quand même assez fortes sur lesquelles on n'est pas défendu, puisque des plaintes de déposer, il n'y a pas de suite. Voilà, il y a aussi cette répression-là qui est quand même aussi très compliquée à vivre pour les paysans, voilà, parce qu'en fait, on a des voisins et il faut quand même continuer à exister sur le territoire. C'est ça qui est compliqué aussi pour eux, quelquefois pour nous.
C'est-à-dire que là, on a beaucoup parlé des répressions et des attaques de l'État, mais en fait, il y a aussi les attaques de l'extrême droite ou des opposants.
Oui, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec le racisme qui est de plus en plus visible, l'extrême droite prend de plus en plus de force, et on s'aperçoit aussi qu'on a des militants, et des militants notamment Antifa, qu'on doit protéger parce qu'ils se font attaquer par l'extrême droite. Voilà, on a eu du côté de Lyon qui se sont fait poursuivre dans les rues, en Bretagne, qui se sont fait aussi suivre dans les rues le soir. Il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les attaques de l'extrême droite. Ne pas oublier que l'extrême droite, elle tue. Petite pensée pour Clément Méric, qui était un camarade de Solidaire, qui a été tué en 2012. par l'extrême droite. Donc l'extrême droite, elle tue, elle se développe, et vraiment, il faut qu'on arrive aussi à se protéger et à lutter contre l'extrême droite. Ça nous conforte qu'on a raison de lutter contre ce qu'ils portent, quoi. Tout leur projet de société est à jeter dans une poubelle et à brûler.
Ces idées nauséabondes. Alors, sur l'extrême droite, nous, le point de vigilance, Julie l'a dit tout à l'heure, c'est sécuriser nos fichiers d'organisation, puisqu'on sait que le syndicalisme, notre syndicalisme en tout cas, nos deux organisations, seront dans la ligne de mire des gouvernements d'extrême droite s'ils arrivent au pouvoir. On sécurise d'ores et déjà nos manifestations, puisqu'on a déjà des attaques de groupuscules d'extrême droite dans les manifestations. Autour de la journée du 25 novembre, on a eu le collectif Némésis, fémo nationaliste d'extrême droite, qui se renforce, hein, qui essaye d'intégrer nos manifestations avec des opérations coup de poing, etc. Donc, elles essayent de devenir de plus en plus. On a eu, je crois que c'était en début d'année de 2025, une intrusion de groupuscules d'extrême droite aussi dans un débat à Paris. C'était un débat sur un collectif iranien, je crois, kurde, voilà, avec l'Union départementale de Paris. Ils ont été attaqués, il y a eu des blessés. Donc voilà, on est aussi de manière frontale dans la bagarre avec l'extrême droite au quotidien. Et c'est vrai que ce sont toujours des actions violentes.
Je prends la parole pour Bassine Nomercy parce que récemment, on a eu donc la violence policière et ça sort enfin et enfin c'est reconnu et on attend maintenant que la justice fasse réellement, sérieusement son travail. Mais on a eu des attaques récemment. Pour le village de l'eau, il y a un convoi vélo qui est parti de Gironde, de Bordeaux, qui nous a rejoint à vélo jusqu'à Sainte-Soline mais qui s'est fait arrêter sur une de ses étapes à Saint-Jean-de-Gély. Ils se sont fait, une des personnes a quand même été hospitalisée, se sont fait tabasser. Il y a eu une enquête et ça a été classé sans suite. Alors ce qui était étrange quand même, c'est que sur tout le long du convoi, la police les suivait à 5 mètres près. Par contre, au moment de l'attaque, la police n'était pas là. Les menaces de mort ont bien été renotées, les gens ont fait des menaces de mort à découvert, donc ça a été reporté, on a eu une plainte, et il y a quand même une enquête sans suite. On a eu quand même des camarades de Bassine Nomercy qui se sont fait tabasser, avec plusieurs jours d'ITT derrière, même plusieurs mois. On a eu aussi des présidents d'associations écologiques qui se sont fait menacer, déverser des pneus, des menaces au fusil, à tirer sur les portes, jusqu'à chez eux, donc chez eux. Donc on a tout ça, et en effet, il y a un genre de deux poids, deux mesures dont tu parlais, Nicolas, dû en fonction de qui attaque, la protection n'est pas toujours la même. Quoi.
Vous êtes toujours sur cette table ronde sur la répression policière. C'était le 10 janvier 2025, organisée par Bassine Nomercy.
On vient de faire un tableau assez noir et assez anxiogène. Le but, c'est pas d'en rester là, mais c'est justement pour avoir une vision complexe, parce que si on sait pas de où on est attaqué et de comment, on peut pas après contrer le problème. Vous avez parlé de tout le soutien, enfin tout l'apport juridique et comment vous vous êtes renforcé au fil des années sur le volet juridique. On a vu, pour les personnes qui étaient là à la prise de parole, Najat de la Legal Team des soulèvements, qui est venue justement parler de tous les procès qui sont en train de suivre. Et puis après, il y a un petit mot que vous pourriez peut-être aussi ajouter, c'est tout ce qui est lié aux soins psychologiques, à la bienveillance et à tous les événements festifs que vous organisez de façon à justement maintenir un collectif.
Je crois qu'on n'est pas encore au point sur tout ça, vraiment à Solidaire, même si on avance sur le sujet. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert justement sur toutes les luttes, sur les méga-bassines et toutes les luttes écologiques, c'est le prendre soin. Et je pense que c'est hyper important dans le milieu militant de prendre soin. Prendre soin, ça veut dire prendre soin de sa camarade à côté, prendre soin de son collectif, prendre soin de soi aussi, s'accorder des pauses, c'est aussi important. On n'est pas obligé d'être sur tous les fronts. Voilà, et on le voit dans les luttes, Toute personne est importante, que ce soit d'être à l'avant ou d'être à l'arrière. Il faut prendre soin de nous et de nous tous.
C'est vrai que ça peut être un tableau sombre hein, qu'on a dépeint, mais en fait, il y a vraiment des choses extrêmement positives dans les luttes, même celle-ci. Et c'était sympa cette journée, en vrai. Ça fédère aussi. C'est des moments d'une fraternité extrême. Quand il y a des camarades qui sont attaqués, quand il y a un ou une militante de la CGT qui est attaquée, c'est toute la CGT qui est attaquée. Et vraiment, à chaque fois, on a été à ce rendez-vous-là. Et quelque part, à chaque fois, ça nous galvanise et ça nous donne confiance, puisqu'on a peut-être une réflexion qui n'est pas la bonne. On se dit, si on est autant attaqué, c'est parce qu'on est autant efficace. Et donc, ça nous encourage plutôt à continuer. Et à chaque fois, on ressort vraiment... avec la pêche, malgré le côté répression, on fait corps et on se remobilise encore plus.
Un comédien de la compagnie Arlette Moreau.
Nous, dans le cadre de prendre soin de ce que l'on fait, il y a quelque chose qu'on a mis en place au sein de la compagnie, c'est une démarche de supervision. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est-à-dire qu'on est accompagné par, là en l'occurrence, une personne... psychologue qui vient du milieu du soin et donc que l'on rencontre et chacun de la compagnie est libre de venir le voir. C'est des rendez-vous collectifs et donc là on peut faire exister des sujets individuels mais aussi collectifs sur à l'occasion de cette performance, voilà ce qui s'est passé, etc., etc. Donc ça c'est une première chose sur effectivement le prendre soin. Pour nous ce qui est très important, vous l'avez dit hein, c'est le soutien. C'est-à-dire qu'effectivement à partir du moment où on sent que il y a quelque chose à faire et que c'est difficile mais qu'on n'est pas seul, on y arrive mieux. Et donc c'est pour ça que nous, on continue de cultiver la joie et qu'on continue, parce qu'on se sent légitime à le faire, c'est-à-dire on continue d'aller dans la rue et on continue de faire des trucs, c'est-à-dire qu'on continue d'avoir des alliés et d'exposer notre sensibilité, mais aussi sur d'autres sujets. Allons dans la rue peut-être juste pour faire des trucs qui sont peut-être plus légers, peut-être plus fun, parce que ça permet déjà à ce que nous, on soit un peu plus ensemble, un peu plus capables, mais c'est aussi créer des espaces, et donc notamment le territoire de la rue, des espaces non dédiés, qui soient aussi un peu plus fun à fréquenter. Et ça, mine de rien, c'est aussi un combat. Voilà.
Nicolas, Confédération Paysanne.
Bien sûr aussi, on essaie de prendre soin de nos militants et de nos adhérents. Donc, comme tout le monde, on essaie aussi de faire corps. Ça, c'est important de faire la fête ensemble aussi, de bien manger ensemble. Ça, c'est important. Le moment où on a aussi essayé de mettre des choses en place, c'est après Sainte-Soline. Après Sainte-Soline, il y a quand même eu un traumatisme, je crois, qui est un peu général. Mais tout le monde, là, on essaie justement de mettre en place des yeux, des coutres et de se faire aider justement par rapport aux gens qui avaient très, très mal vécu ce moment-là. Voilà, c'est tout ça. Puis après, c'est aussi en interne du syndicat d'essayer d'avancer sur des choses pour protéger des gens, pour lutter contre les violences sexuelles, par exemple. Et voilà, il y a un travail qu'on essaie d'accomplir pour arriver à aussi régler les conflits, hein, parce que comme structure, il y a des conflits internes qui peuvent être des fois ressentis violemment. Et il faut arriver à continuer à travailler et s'améliorer là-dessus.
C'est vrai, comme l'a dit Myriam, la journée d'aujourd'hui, elle reflète bien les luttes qu'on porte en général, c'est-à-dire on essaie d'avoir des bons repas, des moments conviviaux, des concerts à chaque fois pour pouvoir danser et en même temps un soutien fort. Pour ceux qui me connaissent, c'est un petit sujet qui me tient à cœur, des bambineries. Parce que c'est ça aussi, c'est remettre les enfants dans les espaces, arrêter de les séparer, de les mettre en garderie, mais pouvoir revenir en famille sur des lieux de militance. Et puis après, petit aparté pour les femmes, c'est quand même souvent les femmes qui restent à la maison et les hommes qui vont manifester. Donc s'il y a une bambinerie, on peut venir aussi. Et donc c'est tous ces espaces qui sont importants. Ma dernière question, elle est beaucoup plus ouverte et après on passera aux questions à la salle. C'est justement sur la résistance et sur l'avenir. Comment vous envisagez ça? Quel serait le message que vous voulez faire passer aujourd'hui à cette table ronde?
Je pense que ce qui fait la force du rapport de force, c'est d'être nombreux et nombreuses. Donc je pense que la priorité des priorités, c'est de s'organiser, c'est de se structurer pour pouvoir répondre. Là, en tant que syndicaliste, je dirais que la première chose à faire demain, en retournant au boulot, c'est de se syndiquer, de militer et c'est de se laisser des espaces de réflexion et de pouvoir établir des revendications. Et puis plus on sera nombreux, moins ils pourront nous faire plier sous la répression. Donc voilà.
Tout pareil. Non, mais oui, effectivement, hein, il faut absolument qu'on fasse nombre. C'est pour nous le seul moyen de résister. Voilà. Et pour faire nombre, effectivement, j'ai envie de dire, syndiquez-vous. Rapprochez-vous aussi de tous les collectifs de lutte qui existent. Il y a par exemple Bassine Nommercy, il y a les soulèvements de la terre, mais il y a aussi sur tous les territoires en fait il y a des collectifs de lutte. Là j'ai en tête notamment dans la Sologne, il y a pas mal de militants qui sont en train de se monter pour lutter contre Sterrin qui veut monter son école d'extrême droite là-bas. Donc voilà, il y a des collectifs de lutte sur tous les territoires. Rapprochez-vous-en. Luttons, de toute façon je pense qu'aussi on est tous là aujourd'hui, c'est parce qu'on lutte déjà. Il faut absolument qu'on arrive à élargir et à ramener le plus de personnes pour être le plus grand nombre face à l'extrême droite, aux multinationales et à ce gouvernement qui nous fracasse, on va dire ça comme ça. Mais bon, on sera là, on résistera toujours.
C'est clair que je pense que c'est global, enfin ensemble qu'il faut qu'on arrive à trouver des nouvelles formes de lutte et à être de plus en plus nombreux. En tout cas, ce qui est un peu inquiétant quand même, c'est qu'on a vraiment le sentiment que le gouvernement est de plus en plus autoritaire, a des formes de plus en plus autoritaires pour se gouverner. C'est bien la preuve que leur base n'est pas suffisante, et c'est ça qui est inquiétant. Comment on peut arriver à trouver des modes de lutte justement pour ne pas attaquer frontalement? Et c'est vrai qu'on a pu voir, même dans la lutte sur les bassines, il y a eu on a fait des actions, des manifestations tous ensemble où finalement on allait où on n'était pas attendu et c'était là qu'on était le plus performant. D'essayer d'attaquer frontalement quelque part, par moment, à mon avis, c'est pas la bonne méthode. Et quelque part on s'use et quelque part ça aboutit à rien et la confrontation, quelquefois, elle n'est pas toujours bénéfique.
Se rassembler, se syndiquer, être ensemble, c'est légal. C'est légitime et c'est juste. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut faire.
Alors, on va prendre quelques questions. Les intervenants ont fait un énorme effort et un grand merci parce qu'ils ont été concis à chaque fois, ce qui a permis de donner la parole à chacun de manière équilibrée. Du coup, je vous demanderai de faire la même quand vous prenez la parole, c'est de rester concis pour qu'il y ait plus de gens qui puissent parler. Et puis on va essayer un petit exercice qu'on avait essayé au village de l'eau, c'est qu'on va essayer de faire un homme, une femme, un homme, mais de justement alterner, parce qu'autrement, naturellement, les hommes se sentent légitimes de parler et les femmes passent derrière.
Je vais profiter de la présence de la compagnie Arlette Moreau et des syndicats. J'ai milité il y a fort longtemps avec Paysans Travailleurs. Et il y avait à l'époque une compagnie de théâtre, ce théâtre du Trèfle, nous a formés par l'improvisation à la lutte dans la rue. Et donc, je sollicite les syndicats de se mettre en relation avec la compagnie Arlette Moreau pour nous former, lors des luttes, à des choses tout à fait passionnantes.
Merci. Alors, on parle de la compagnie Arlette Moreau parce que nous, on est là. Mais en vrai, il y a plein d'autres compagnies. Il n'y a pas que nous. Il y a plein de compagnies qui font des performances de rue et qui sont capables, effectivement, de vous accompagner si vous avez envie de faire des trucs rigolos. Nous, il s'est avéré que plusieurs fois, on s'est retrouvés dans des cortèges à l'occasion de nombreuses manifestations et qu'on a essayé de faire des trucs qui sont plutôt rigolos pour s'amuser, donc de théâtraliser certaines situations, pour fabriquer un petit peu de fun dans ces moments difficiles.
Effectivement, c'est des choses qu'on peut faire déjà nous dans le syndicat, notamment avec le théâtre de l'opprimé. On le pratique notamment lors de formations. Mais ce qu'on peut faire aussi, par contre dans les manifestations aujourd'hui, c'est qu'on travaille avec des camarades qui sont habitués à faire plus de l'animation. Je pense notamment sur les dernières mobilisations dans le cortège solidaire à Paris, il y avait Planète Boum Boum qui a pu animer un peu le cortège solidaire, où c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des slogans qui étaient scandés, il y avait à la fois des slogans, il y avait des chansons, il y avait de la musique, il y avait de la danse. Le côté festif est aussi assez important pour garder le goût de militer, pour garder l'espoir et la pêche, quoi.
Nous, on utilise beaucoup le spectacle vivant comme vecteur d'éducation populaire. Ça permet aussi d'apprendre des choses. Il y a aussi des outils pour militer. Et donc, on utilise beaucoup le spectacle vivant comme ça.
Cet après-midi, aussi prévu des retransmissions indirectes par des comédiens de ce qui se passe dans la salle du tribunal. Donc, on va les rejoindre tout à l'heure.
Bonjour. Moi, je suis à la CGT et je suis fier que la CGT soit CGT des Deux-Sèvres. Je suis dans l'artiste, syndicat français des artistes. Je le dis au passage, ça existe, hein, pour les salariés, pas uniquement pour les patrons. Donc, fier que la CGT soit membre de ce collectif, fier que la CGT soit membre des collectifs de lutte pour la Palestine, c'est pour moi la manière de faire sens, de faire masse par rapport à toutes les répressions que nous subissons. Juste pour répondre sur la répression, il y a les répressions comme aujourd'hui, par exemple pour Sainte-Soline, sur les leaders syndicaux, mais il ne faut pas oublier toutes les petites répressions qu'il y a eu après Sainte-Soline. Il y a eu plein de copains et de copines qui ont été convoqués, qui à la gendarmerie, qui au tribunal, pour des contraventions, des militants syndicaux ou pas syndicaux, ou associatifs ou pas associatifs, toutes ces petites choses invisibles et tout. Et notre seul espoir par rapport à la montée de l'extrême droite, et aux répressions sur les marches des fiertés, sur les occupations de théâtre. Une copine me le rappelait tout à l'heure, lorsque nous avons en 2021 les gens du spectacle occupés les théâtres, il y a eu l'extrême droite qui est venue à Bordeaux, qui est venue à Nantes, qui est venue dans plusieurs villes, à Orléans, etc. etc. Hein, c'est l'autre face cachée du capitalisme, ça s'appelle, l'extrême droite. Donc le capitalisme, il a vu la solution, et ben il envoie ses nervis avec tout leur cortège réactionnaire. On est là-dedans, et nous, notre seule solution, c'est de faire masse, quel que soit ce que nous représentons en tant que syndicat, collectif, association, comme s'il se passe aujourd'hui. C'est ça notre force.
Merci.
Dans cette émission, vous le savez, on a souvent évoqué Serge et Michael qui se sont retrouvés dans le coma suite à la féroce répression policière de Sainte-Soline 2023. Vous allez maintenant entendre Ludo, gilet jaune et proche de Michael.
Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Ludovic et moi je suis un très proche de Michael qui était blessé à Sainte-Soline. Aujourd'hui Michael il n'est pas venu mais il vous passe le bonjour. Il est très fatigué, il a travaillé cette nuit. Il va bien, malheureusement il va bien mais sa mémoire c'est pas consolidée. Et puis comme vous avez vu les images qui ont été diffusées par Mediapart et Libération, il ne s'est rien passé à Sainte-Soline. Il n'y a rien eu. Les gendarmes, rien. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas insulté, ils n'ont pas tiré, ils n'ont pas blessé. Il y a 2 ans et demi d'enquête qui sont derrière, hein, avant qu'on diffuse ces images. Moi, je suis le compagnon de la mère à Michael. Je peux vous dire qu'on en a subi des vertes et des pas mûres par la gendarmerie. Michael, il était en train de se faire opérer, il était entre la vie et la mort. Et la gendarmerie est venue nous appeler. Mais parce que au téléphone, sa mère les a envoyés chier, parce qu'elle leur a dit d'aller se faire foutre parce qu'ils voulaient les affaires de Michael. Et parce que ça leur a pas suffi, ils se sont déplacés à Poitiers. Venir nous voir, c'est son avocate, Michael, qui s'est interposée pour leur dire de faire demi-tour. Peu de temps après ce qui est arrivé à Michael, on est venu avec nos gilets jaunes, et puis on s'est dit, tiens, il y a la FSMEA au château de Chambord qui sont là, et nous, on veut défendre le peuple, on veut un avenir meilleur pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce que Michael, il a quand même un enfant de 12 ans, qui pleurait toutes les nuits en nous demandant, est-ce que papa, il va s'en sortir? Eh bien, ces braves gens de la FSMEA, entourés par quelques-uns du RN, nous ont jetés dehors du château de Chambord. Nous, les gilets jaunes de Blois, on n'avait pas le droit de manifester, on n'avait pas le droit de s'exprimer. Alors là, aujourd'hui, je voulais vous dire merci à vous tous, surtout les syndicats, la Confédération Baysanne et Bassine nous merci, parce que sans vous, eh bien aujourd'hui, Michael, ça serait quelqu'un qui serait oublié, au milieu de nulle part, sans avocate. Parce qu'un avocat, ça coûte super cher et que nous, on n'a pas les moyens. Merci à vous.
Bonjour. Lorsqu'on arrive à être nombreux, ça peut changer des choses. Vous l'avez exprimé d'une certaine manière. Ce n'est pas uniquement en termes de nombre tout pur, mais un nombre d'organisation. J'en profite pour remercier d'une part la Confédération paysanne qui, à un moment donné, s'est ajoutée à la lutte contre les bassines en Deux-Sèvres, pour commencer, et les autres associations qui l'ont fait par la suite, parce que ça a énormément changé la situation, ça a énormément changé la capacité d'informer sur les différentes problématiques, pas seulement sur les bassines. Moi, je ne crois pas trop non plus actuellement en les vertus de l'État. Vous êtes au courant des recours devant la justice pour les bassines. On a quand même eu quelques succès, que ce soit pour les demandes des volumes prélevables des irrigants, que ce soit pour la réduction des bassines en Poitou-Charentes. Certains se souviennent qu'il y avait au départ 19 projets portés par l'association des irrigants. Ils ont perdu 4 momentanément parce qu'on a porté plainte. Et c'est aussi grâce à l'aide sollicitée par les associations du Conseil national de la protection de la nature qui s'est aussi impliqué et qui a témoigné avec, pour dire, il manquait une demande de dérogation pour l'outarde de Canneberrière notamment. Et c'est pour ça qu'actuellement, 4 réserves sont au stand-by. Parce qu'il faut d'abord apporter cette demande de dérogation et ils ne sont pas sûrs de pouvoir le faire. Donc, cette coopération des organisations, c'est l'une de mes clés.
Il y avait aussi la désobéissance des ordres qu'on pouvait nous donner en tant que fonctionnaire. Pendant la lutte des Gilets jaunes à l'hôpital de Toulouse, il avait été demandé aux soignants qui étaient aux urgences de signaler les personnes qui étaient blessées et qui arrivaient avec des gilets jaunes et de les signaler à la direction qui ferait remonter à qui de droit. Les soignants à Toulouse se sont fortement opposés et ont dit ben non, ça ne fait pas partie de notre rôle de soignant, donc non, on ne le fera pas. Voilà, donc c'est aussi ça la résistance. Voilà. Je regardais les derniers chiffres. En 2024, il y a eu 142 disparus de personnes qui ont été assassinées pour des faits écologiques. Assassinés ou qui ont disparu, enfin, 177 en 2023, enfin, voilà, 3 fois plus de risque d'être assassiné quand on défend l'environnement que quand on défend les droits humains. Donc je pense qu'il faut aussi l'avoir en tête. Donc grosse pensée pour Michael. Voilà, j'ai plein de militantes qui me viennent en tête. Là, j'ai une grosse pensée pour Rémi Freys parce que je suis du Tarn-et-Garonne, voilà, et que du coup, ça nous a beaucoup touché à l'époque. Donc il faut lutter et c'est dur des fois, effectivement, quand on perd des proches.
Donc je vais lire ce qu'a écrit la maman de Michael. 3 ans après Sainte-Soline 1 et 2 ans et demi après le massacre Sainte-Soline qui a fait plus de 200 victimes, dont 4 très graves, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour une représentation théâtrale de justice. Nos 4 camarades des Soulèvements de la Terre, de Bassine-Montmercy, de Solidaire et de la CGT sont poursuivis pour avoir organisé une manifestation dans le but de défendre l'eau, notre bien commun, et de dénoncer une bassine illégale. D'ailleurs, la justice leur a donné raison. C'est pourquoi nous demandons que toute poursuite soit abandonnée contre eux. Michael et le collectif Gilets jaunes 41, soutien de Sainte-Soline, nos Bassaranes.
Avant de se quitter, un mot avec Myriam.
Bonjour Myriam.
Bonjour.
Quelles sont tes fonctions à la CGT ?
Je suis secrétaire confédérale au national et je suis aussi co-dirigeante de l'Union départementale du 95.
C'est vraiment très chouette de voir la Confédération paysanne, Sud Solidaire et la CGT ensemble. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, hein. C'était le cas au village de l'eau et sur ces luttes anti-bassines. On a l'impression qu'il y a des bisbilles en national, mais sur le terrain, à la base, c'est main dans la main.
Oui, alors les alliances avec les associations de manière générale, avec les autres organisations syndicales et avec la Confédération paysanne, c'est des choses qu'on fait de manière très régulière. C'est un travail en commun qu'on porte donc sur les revendications écologiques. On le porte aussi sur les revendications féministes. On travaille beaucoup avec l'associatif. On a aussi beaucoup de travail en commun sur le logement, par exemple. Donc plein de domaines où on arrive chacun et chacune de nos associations, de nos organisations à trouver des points communs, à avoir des revendications qui sont communes et à pouvoir les porter ensemble. Ça nous rend beaucoup plus forts d'être ensemble.
Et ça a été mentionné d'ailleurs pendant cette table ronde, là, avec Julie de Sud Solidaire. Bah, vous travaillez sur d'autres dossiers, notamment féministes.
Voilà, avec Solidaire, avec la FSU, on travaille en commun sur les questions féministes, sur les questions écologiques et là, sur aussi les questions de progrès social. Par exemple, hier, on appelait nos 3 organisations syndicales à une journée de grève et une manifestation pour lutter contre le budget austéritaire.
Alors, la CGT est, si j'ose dire, une vieille dame. Elle a fêté ses 130 ans il n'y a pas très longtemps. Et donc, en matière de répression, la CGT en connaît un rayon. Hein. On va passer des décrets-lois d'Aladier de 38-39 jusqu'à nos jours. Ce n'est pas la première fois que la CGT connaît dans son histoire des mouvements de répression. Et tout à l'heure, il y a le camarade David, qui est l'un des 4 inculpés d'aujourd'hui, qui a dit, et ça m'a quand même glacé les sangs, qui a dit « on n'a pas connu une telle répression, un tel flicage depuis Vichy ».
Ça, il a tout à fait raison, David. Il faut toujours se rappeler l'histoire. Et là, le tournant autoritaire, le tournant répressif que prend l'État, que ce soit bien l'État au niveau national, mais aussi dans les départements, il est extrêmement inquiétant. Nous, on le dénonce, notamment depuis la réforme des retraites depuis 2023. En fait, on a plus de 1000 militants et militantes de la CGT inquiétés devant les tribunaux, qui ont été convoqués devant les commissariats, qui ont été licenciés dans les entreprises. Et on a interpellé à plusieurs reprises les premiers ministres qui se sont accumulés récemment, le ministre de l'Intérieur, etc., pour leur dire que là, on est dans un point de bascule qui est intolérable.
Nous ne nous laissons pas impressionner. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait parler de Sophie Binet et ce qui lui arrive en ce moment ?
Alors, ce n'est pas incantatoire. En fait, on ne se laisse pas impressionner. D'ailleurs, quand il y a un militant, une militante qui est poursuivie, en fait, ça nous galvanise, ça nous fédère. Parce qu'en fait, on attaque la liberté d'expression, on attaque le monde du travail, on attaque la CGT. Et à chaque fois, on s'en retrouve renforcé. Donc, ils perdent clairement leur temps à continuer à nous réprimer, puisqu'ils ont l'impression d'en attaquer un, et bien il y a trois autres militants qui poussent derrière pour militer. Et il y en a d'ailleurs qui entrent en militantisme parce que le fait qu'on soit réprimé de cette manière fait qu'ils se syndiquent pour être plus nombreux, pour pouvoir porter la voix en entreprise ou en administration. Et puis aussi parce que le fait qu'on soit réprimé autant, ça prouve qu'on est un contre-pouvoir extrêmement important. Sinon, ils ne perdraient pas leur temps comme ça à essayer de nous faire taire.
Donc en fait, c'est qu'ils ont la trouille.
Oh, clairement. Et ils ont la trouille et nous, on ne l'a pas.
La bourgeoisie a toujours peur de perdre ce qu'elle a, mais là, en ce moment, elle est terrorisée. D'ailleurs, on voit qu'elle est en train, comme elle l'a fait dans les années 30, en train de recourir à la solution fasciste.
C'est exactement ça. Là, dans les derniers temps, dans les derniers mois, ils n'ont jamais eu aussi peur. Le gouvernement, le président n'a jamais été aussi faible. Et donc, l'arme des faibles, c'est de faire la répression comme ça, par le bras armé que devient la police maintenant.
Quel est le titre de la fonction qu'occupe Sophie Binet à la CGT ? Elle est secrétaire générale, non, c'est ça ?
Elle est secrétaire générale de la CGT, oui. Donc c'est la première responsable, celle qu'on voit dans tous les médias et qui représente la CGT. Enfin, c'est notre secrétaire générale et c'est extrêmement grave qu'elle soit mise en examen pour injure publique.
Tu veux nous rappeler les faits ?
Elle est intervenue dans une radio pour dénoncer le chantage que font les multinationales à chaque fois qu'on leur demande de payer leurs impôts, comme quoi ils vont délocaliser, etc. Et donc, elle a dit ce que tout le monde dit et tout le monde pense tout bas, que les rats quittent le navire. Et donc, elle a été mise en examen. C'est le parquet qui a choisi de mettre en examen pour injure publique et on l'a su avant-hier.
Toujours sur cette vieille rengaine de « oui, mais si les patrons qui sont tellement plus intelligents que nous s'en vont, le pays va sombrer dans le chaos, etc. » Comme disait l'autre, qu'est-ce que c'est Vaillan ?
Bah oui, c'est ça. En fait, on est avec des multinationales à qui on verse 211 milliards par an d'aide publique, qui ne veulent pas payer d'impôts. Donc en fait, ils nous coûtent trop cher. Donc s'ils ne veulent pas payer leur juste part d'impôts, ni qu'ils n'ont aucun projet d'emploi pour la France, bah en fait, j'ai envie de dire qu'ils se cassent. Ils ne nous servent à rien. Les richesses sont créées. C'est pas par les grands patrons des multinationales, c'est par le monde du travail, c'est par nous, c'est par nos mains, c'est par notre cerveau que sont créées les richesses. Donc c'est bien normal de récupérer les richesses et de les utiliser pour le bien commun.
Ça fait du bien. Bah, on peut parler d'intersyndicale en fait, Confédération Paysanne, Solidaire, CGT, main dans la main. C'est très plaisant à voir.
Puis de créer du lien. Que ce soit entre militants, militantes, avec des histoires différentes, des façons de militer qui sont différentes, et de réussir à créer des convergences et à créer des liens, bah pour moi c'est essentiel et c'est ce qui marquera le point de bascule où on pourra gagner.
Et nous ne pouvons que gagner puisque nous sommes infiniment plus nombreuses et nombreux que la toute petite minorité qui exploite et opprime la majorité. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site polemix-et-la-voix-off.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio encore libre préférée. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début et joyeux 1er mai à tous. Salut.